Bonjour, sentez-vous les bienvenus. Merci, Andrei, de t'avoir disposé. Et nous bénissons le Seigneur pour cette première partie où la parole de Dieu nous réconforte, donne la force et nous rappelle que nous ne sommes pas tout seuls. Je vous invite à la prière. Oui, Dieu le Créateur, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Tu es celui en qui nous avons trouvé la stabilité, la paix dans nos cœurs. Tu es celui en même temps qui nous nourrit. Tu es notre Dieu, le Tout-Puissant. Toi, tu n'es pas impressionné par les temps. Tu es au-dessus des temps, tu es au-dessus des royaumes, c'est toi le Tout-Puissant. Ce matin, nous nous soumettons devant toi avec les cœurs assoiffés d'apprendre de toi. Merci pour ta parole. Que ta parole puisse nous éclairer, nous montrer le chemin dans ce monde bruyant. Nous avons besoin de ta lumière. Éclaire-nous, que ton Esprit Saint conduise. Toutes choses me saisissent pour que seulement ce qui édifie ton peuple sorte de ma bouche. En ton nom, Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Amen. Nous sommes à l'épisode 7 de notre dans le livre d'Esther, dans lequel vous avez compris la particularité, la répétée, où dans son livre, Dieu n'est pas nommément cité, mais c'est lui le véritable maître de cette histoire, d'une jeune femme juive devenue la reine par la grâce de Dieu, et cette reine va sauver les Juifs, les épargner d'un génocide qui avait été planifié pour eux. Une histoire marquée par un labyrinthe d'événements si richement orchestrés, derrière lesquels se cache la providence divine. Dieu protège son peuple. L'actualité de ce jour, ce qui passe, ça ne vous échappe pas. Depuis hier, j'ai pris connaissance de cette information après la prédication, la préparation de la prédication vers 17h30, que Israël et les États-Unis avaient bombardé l'Iran. Et ce matin, les nouvelles qui sortent ne vous échappent pas. Que le guide suprême de l'État islamique iranien a été tué dans les bombardements. Alors j'ai regardé la photo, je ne fais pas la similitude ni le parallélisme, non. Mais je me suis rendu compte que l'histoire d'Esther se passe dans le pays d'Iran. Aujourd'hui, l'Empire perse de l'époque, et que ce matin également, au chapitre 7, il sera question du peuple juif et de la mort de leur ennemi. À chacun de tirer les leçons, mais je me suis dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme le dit la parole de Dieu, mais cette parole est riche. Et peut nous éclairer indépendamment de nos sentiments, de nos souhaits. Il y a une richesse et une révélation et une puissance sous cette parole. Comme le disait l'Ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil. Mais Dieu peut nous éclairer par sa parole. Alors, on ne peut pas parler du chapitre 7 du livre d'Esther sans rappeler le chapitre 3, marqué par l'arrivée au pouvoir de l'un des personnages clés de ce livre, un certain Aman, fils d'Amadeta, l'Agagite, un membre de la famille royale d'Amalek, l'ennemi maudit, juré de Dieu et du peuple juif, tel que c'est décrit dans la Bible, en Exode chapitre 17, verset 14, et en Deutéronome chapitre 25, versets 17 et 19. Pour une raison ignorée, le roi Assuérus de l'époque, l'Empire perse, aujourd'hui l'Iran, éleva Aman et le plaça au-dessus de tous les princes qui étaient avec lui. Aman était au titre du premier ministre de l'Empire perse. Aman brilla par sa haine et colère démesurée envers le peuple juif, parce qu'un juif nommé Mardoché refusait de se courber et de se prosterner devant lui. Aman va monter un complot contre le peuple juif devant le roi Assuérus. Il veut punir non seulement Mardoché, mais aussi tout son peuple, tous les juifs sous l'empire du roi Assuérus, qui lui accorda son accord. Mais encore, de quelle punition ? Aman planifie de perpétrer un génocide contre le peuple juif. Sous son ordre, les lettres furent envoyées dans toutes les provinces du roi. Elles disaient qu'il fallait en un seul jour, c'est-à-dire le mois d'Adar, exterminer, massacrer et supprimer tous les juifs, jeunes et vieux, petits-enfants et femmes, et procéder au pillage de leurs biens. C'est dans Esther, chapitre 3, verset 13. Rappelez-vous que lors de l'examen de ce chapitre 3, le commentaire biblique de John MacArthur nous prêtait une illustration que le livre d'Esther pourrait être comparé à un jeu d'échecs où Dieu et Satan, tous deux invisibles, déplacent d'authentiques rois et reines nobles sur l'échiquier. À la fin du chapitre 3, Satan plaça Aman au pouvoir, semblait prononcer échec dans ce jeu. Lors de notre étude, on s'était privé, du moins gardé, à ne pas tirer des leçons sur la finalité de celui dont le cœur est rempli de haine, une personne comme Aman ou quelqu'un d'autre. On s'était juste posé la question si Dieu allait abandonner ce match et qui serait le vrai vainqueur de ce bras de fer et qui prononcerait à la fin la victoire, échec et mat. Les chapitres 4, 5 et 6 se sont marqués par l'élaboration stratégique de contre-attaque dans le camp de Esther et Mardoché. C'est une question de survie pour Mardoché. Il s'indigne contre le mal planifié par Aman et va le dénoncer jusqu'à la reine Esther. En signe de grande humiliation devant Dieu et de sa dépendance, la reine Esther décrète un jeûne de 3 jours parmi tous les Juifs à Suse et prend ses responsabilités en allant se présenter devant le roi Assuérus, bien qu'elle n'avait pas de permission. Les chapitres 5 et 6 sont marqués par la sagesse d'en haut qui a guidé Esther et son calme dans l'élaboration et exécution de son plan afin de pouvoir plaider la cause de son peuple juif devant le roi Assuérus. Voilà où nous en sommes et je vous invite à prendre la parole de Dieu dans le livre de Esther. Nous ferons la lecture à partir du verset 14 du chapitre 6 et la lecture de tout le chapitre 7. Je fais la lecture. Esther, chapitre 6, au verset 14. Il parlait encore avec lui. Ici, ce sont les conseillers de Haman et son épouse. Il parlait encore avec lui quand les eunuques du roi arrivèrent. Ils s'empressèrent, de conduire Haman au banquet que Esther avait préparé. Le roi et Haman se rendirent au banquet donné chez la reine Esther. Ce second jour, de nouveau, le roi dit à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quel est l'objet de ta demande ? Il te sera accordé. Que désires-tu ? Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, roi, et si tu le juges bon, accorde-moi la vie, sauve. Voilà ma demande, et sauve mon peuple. Voilà mon désir. En effet, nous avons été vendus, mon peuple et moi, pour être exterminés, massacrés, supprimés. Si encore nous avions été vendus pour devenir des esclaves et des servantes, j'aurais gardé le silence. Mais l'adversaire ne saurait compenser le préjudice ainsi causé au roi. » Au verset 5, prenant la parole, le roi Assuérus demanda à la reine, « Qui est-il ? Et où est-il ? Celui qui a projeté d'agir de cette manière. » Esther répondit, « L'homme qui est notre adversaire, notre ennemi, c'est Haman, le misérable que voici. » Haman trembla de terreur devant le roi et la reine. Dans sa colère, le roi se leva et quitta le banquet pour aller dans le jardin du palais. Quant à Haman, il resta là pour demander la vie sauve à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était décidée dans l'esprit du roi. À son retour du jardin du palais, en pénétrant dans la salle de banquet, le roi le trouva affalé contre le siège occupé par Esther et il dit, « Ira-t-il jusqu'à violer la reine en ma présence dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on recouvrit le visage d'Haman. Harbonnant, l'un des eunuques dit alors devant le roi, « Il y a une potence préparée par Haman à l'intention de Mardoché, celui qui avait parlé pour le bien du roi. Il est dressé dans la maison d'Haman et fait 25 mètres de haut. Le roi ordonna, « Pendez-y donc, Haman. » Alors on pendit Haman à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. J'ai intitulé cette partie qui parle de la chute de Haman, « Le mal sera toujours vaincu ». Le mal sera toujours vaincu. La fin du chapitre 6 marque le tournant de notre match. La puissance est passée désormais dans le camp de Mardoché et d'Esther, et leur adversaire l'a déjà senti. au verset 13 de ce chapitre 6, lorsque Aman exposa point par point à sa femme, Zeresh, et à tous ses amis tout ce qui lui avait été arrivé, ses conseillers, sa femme Zeresh, lui dirent, « Si ce Mardochée devant lequel tu as entamé ta déchéance est un juif, tu ne pourras rien faire contre lui, tu ne pourras que perdre la partie contre lui. » Le renversement de la situation va très vite, que Aman est dépassé par les événements. Lui qui venait de passer une pire journée sous l'humiliation et la honte. Rappelez-vous que c'était lui qui était chargé à diriger le cortège pour honorer Mardochée, alors qu'il avait préparé une potence pour Mardochée, pour le pendre. Et c'était lui qui était chargé de conduire dans toute la ville ce cortège. Et c'était lui qui était chargé de dire « Ainsi sera-t-il fait à l'homme que le roi a daigné honorer. » Passe une journée très difficile, douloureuse, humiliante. La parole nous dit qu'il se couvre la tête pour rentrer à la maison. Pendant qu'il explique à son épouse, à ses conseillers, le temps même qu'il les récupère, il se voit empressé par les eunuques du roi de participer au banquet organisé par Esther. Quelle souffrance accélérée même. J'imagine, Aman n'avait pas la tête d'aller dans une fête. Mais il est obligé, c'est l'ordre du roi. Tel est le sort des planificateurs du mal, ceux qui irritent et provoquent Dieu. Les événements pour leur déchéance vont vite. Deutéronome chapitre 32, verset 35, Dieu dit ceci, « C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui leur donnerai ce qu'ils méritent quand leur pied trébuchera. En effet, le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. » On dirait que cette parole s'accomplisse dans la vie de Aman. La douleur, sa déchéance va trop vite parce qu'il irrite et provoque Dieu. Les versets 2 et 4 de dans notre texte met en évidence la requête au roi de la reine Esther et son identification au peuple juif, au peuple de Dieu. C'est lorsque le roi posa pour la troisième fois la question « Quelle était la demande de la reine Esther ?» qu'elle lui exposa sa requête. « Lui sauver la vie, elle et son peuple. » Pour la première fois, la reine Esther assume ses origines et s'identifie clairement de son peuple juif qui est en captivité, rappelons-nous, ce peuple méprisé, esclave dans le royaume perse. Elle se positionne nettement. Elle a changé les sentiments de son cœur. Se positionne comme Moïse, Hébreux chapitre 11, verset 25, lorsque Moïse décida de quitter la belle place qu'il avait chez Pharaon, il décida de l'abandonner et de s'allier au peuple juif qui souffrait de l'esclavagisme en Égypte. Elle se positionne nettement avec son peuple méprisé, objet d'un plan génocidaire en cours. C'est un acte de foi et de fierté de sa part, et une leçon pour nous tous, qui parfois, dans certaines circonstances, nous sommes gênés de témoigner que nous appartenons au Seigneur Jésus, intimidés par l'entourage, Parfois, on a du mal à confirmer notre appartenance. Soyons courageux, moi le premier. Au verset 5, le roi découvre que non seulement il est marié avec une juive, mais aussi que sa reine aimée est visée par le plan macabre de Haman. Le verset 6, Haman est démasqué et désigné par le nom de son maître, le diable lui-même. Trois noms que la parole de Dieu donne au diable lui-même. Esther pointe du doigt à Haman, l'homme qui est notre adversaire, notre ennemi, le méchant ou le misérable dans d'autres versions. Haman porte le poids du mal. Haman tremble de terreur devant le roi et la reine. Les versets 7 et 8, il s'agit d'un mal qui nous guette tous et nous aveugle quand on y cède la colère. Telle est la similitude, du moins le point commun entre l'homme que nous sommes lorsque nous nous laissons emporter par la colère. Nous pouvons tomber dans le piège comme Haman, comme le roi Assuérus. Le roi se rend compte qu'il a été trompé et constata qu'il a validé un projet macabre de Haman d'exterminer le peuple juif. Sa colère le met hors de lui-même. Qu'il s'imagina même que Haman voulait violer la reine dans son palais. La colère du roi ne s'apaisa seulement que quand Haman est pendu. Quelle colère! La colère qui fait les dégâts. Nous pouvons tous nous rappeler, chacun à sa manière, nous sommes tous différents. Mais lorsque nous nous laissons emporter par la colère, combien de dégâts nous pouvons causer? Que le Seigneur nous aide. C'est la même colère qui avait poussé Haman de vouloir tuer non seulement Mardochée, qui ne voulait pas se prosterner devant lui, mais aussi d'exterminer tout le peuple de Mardochée. La colère démesurée, la colère qui nous sortait de nous-mêmes. C'est un avertissement pour chacun de nous. Souvenons-nous que les décisions prises sous l'effet de la colère auront toujours des conséquences regrettables. La parole de Dieu nous prévient en Jacques, 1er chapitre, verset 19. Ainsi donc, mes frères et chers, bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ne sommes pas mieux que Haman ni le roi Assuérus lorsque nos cœurs ne sont pas remplis du Saint-Esprit, lorsque nos cœurs ne sont pas régénérés par la présence du Seigneur en nous. Nous aussi pouvons nous livrer à la colère et faire les dégâts. Versets 9 et 10 nous parlent de la pendaison de Haman, une manifestation suprême de la justice. On a commencé dans l'introduction en détaillant le plan de Haman, combien il a pris le plaisir de planifier, d'exterminer tout le peuple juif dans le chapitre 3, et qu'il en était fier. Et ici, les choses ont changé. Le cours de circonstances a pris une autre direction. On nous parle de la pendaison de celui qui voulait pendre. La sentence du roi est irrévocable. C'est Haman qui est pendu sur la potence de 25 mètres qu'il avait dressée dans sa maison pour son ennemi Mardoché. Haman est coupable de 3 accusations, coupable de peine de mort. Il a manipulé le roi en projetant de tuer le peuple de celle qu'il avait placée sur son trône, la reine. Il avait donné l'impression de vouloir violer la reine. Conséquence de la colère du roi, qui devient un péché capital pour Haman. Il avait projeté de tuer l'homme que le roi venait d'honorer pour sa loyauté. Haman est condamné. La parole de Dieu déclare, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. En Ecclésiaste chapitre 12, verset 14. Encore un avertissement pour nous tous. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, déclare la parole de Dieu en Romains chapitre 6, première partie du verset 23. Nous ne sommes pas en train d'assister à la pendaison de Haman comme un spectacle, mais c'est un moment de nous repositionner nous-mêmes, de nous rappeler que ce que vient de nous dire la parole de Dieu touche ce qui se consume dans nos cœurs. Tout ce que nous pensons être caché, soit bien, soit mal, un jour apparaîtra pour le jugement. Dans le psaume 50, si mes souvenirs sont bons, il y a un verset où Dieu dit, « Tu le fais, je te laisse le faire, tu crois que je suis égal à toi. Mais un jour, tout ce que tu fais en cachette, je le mettrai devant toi. » Un avertissement pour nous tous. Vous me direz, non, nous ne planifions pas de tuer le peuple juif comme Haman planifiait le génocide. Mais c'est une mise en garde pour nous tous qui sommes dans la chair de veiller à nos cœurs, à ceux qui conçoivent. Demandons le Seigneur de nous éclairer davantage. La parole de Dieu reste vraie et se vérifie pour l'éternité. On dirait que le psaume 52 sur la punition du trompeur a été écrit pour Haman. Je vous invite à prendre ce psaume qui va aussi nous enseigner, voir combien Haman se retrouve dans ce psaume. Chacun de nous qui n'est pas en Christ, dont le cœur est livré au diable, peut facilement se trouver dans ce schéma. Le psaume 52, nous lisons à partir du verset 3. Pourquoi te vantes-tu de ce qui est mal, toi, l'homme fort? On dirait qu'on parle à Haman à la fin du chapitre 3. La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que le crime. Elle est coupable, elle est coupante comme un rageoir, fourbe que tu es. Tu préfères le mal au bien, le mensonge à la vérité. Tu aimes toutes les paroles qui détruisent la langue trompeuse. C'est pourquoi Dieu t'abattra pour toujours. Il s'emparera de toi et t'arrachera de ta tente. Il te déracinera de ta terre des vivants. Les justes le verront, ils éprouveront de la crainte et ils se moqueront de lui. Voilà l'homme qui ne prenait pas Dieu pour protecteur, mais qui se confiait dans ses grandes richesses et qui cherchait refuge dans sa méchanceté. On peut s'arrêter ici, notre lecture. Chérissons le bien, détestons le mal. Chérissons le bien, détestons le mal. Pour conclure, Dieu est le secours et le protecteur de son peuple pour toujours. On voit bien ce que dit le psaume 121 à partir du verset 3, qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, et l'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Dieu sera toujours victorieux pour son peuple. Il est souverain. Et si nous lui appellerons le Tout-Puissant, alors il sera toujours victorieux. À chacun le choix. On n'est pas obligé. Mais à chacun de choisir. Je n'oublie jamais l'histoire de Ruth. Il a fait le choix de suivre le Dieu de Naomi. Il a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ne me hâte pas de retourner chez les Moabites où ils avaient des idoles et conchards. Mais il a décidé, il a pris la décision et l'a choisi. À nous tous, le choix nous est donné. Quel Dieu as-tu choisi? Dieu sera toujours victorieux pour son peuple. Il a dit en Deutéronome, chapitre 20, verset 4, « Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Comme Esther, soyons fiers d'appartenir au Seigneur Jésus. Nous avons un grand Dieu, un sauveur qui a vaincu la force du mal à la croix. Moi, je suis fier d'appartenir à l'Éternel. Chacun de nous de choisir. Le salut de Dieu et sa victoire pour nous sont éternels. Le Seigneur Jésus a vaincu le péché, notre ennemi de toujours. Quand on voit le salut que l'Éternel accorde à son peuple, on ne peut pas penser à nous qui étions rongés, séparés de Dieu par nos péchés, ce qu'il a fait pour nous. Par Christ, il nous a sauvés. Et aujourd'hui, toi et moi, nous disons que nous sommes les enfants du Très-Haut, les bien-aimés de Dieu, sous sa protection. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 26, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, au verset 57, que Dieu soit remercié, lui qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous sommes protégés. En lui, la victoire est pour nous, pour toujours, en Christ Jésus. Cultivons l'amour du prochain, nous l'avons vu ce que ça a coûté, Naaman, de cultiver la haine. cultivons l'amour du prochain et détestons la haine, la colère et les autres œuvres du mal qui conduisent au jugement. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ne l'oublions pas. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Quant à la suite du livre d'Esther, à la fin de ce chapitre 7, Dieu nous prouve qu'il n'abandonnera jamais le match. Jamais. Dieu ne va jamais abandonner le combat pour protéger ses enfants. Au contraire, à la pendaison de Haman, Dieu est le vrai vainqueur qui déclare même échec et mat. C'est lui le vainqueur. Le mal est vaincu. Vous êtes conviés à la prochaine épisode. Et je vous invite à la prière. Dieu le Tout-Puissant, notre Dieu, ta parole nous montre que tu n'as pas changé. Ce que tu as dit au temps de Moïse, ce que tu as fait lorsque tu as sorti ton peuple de l'Égypte, ce que tu as fait dans le désert pour les faire entrer dans la terre promise, les combats que tu as menés, que tu as gagnés, c'est le même combat que tu as mené, gagné en face d'Aman. C'est le même combat que tu as mené à la croix pour nous arracher du diable. C'est toi le victorieux pour toujours. Merci parce que tu nous as choisis et tu nous as cachés sous ta protection. Merci pour ta présence que tu assures à tes enfants. Merci. Parce que notre salut est éternel, à nous qui t'appartenons. Merci, parce que tu es un Père bienveillant qui veille sur ses enfants, partout et pour toujours. Garde nos cœurs plus que toute autre chose. Fais grandir en nous les fruits de l'Esprit et tout ce qui lui procure l'amour, la bienveillance, la paix, maîtrise de soi, éternelle. Et de nous à nous rappeler que toi qui nous aimes, qui nous appelles, tu es aussi un Dieu juste qui nous appelle à chérir la vérité, la justice dans nos cœurs et la sainteté pour te plaire. Conduis-nous, éclaire-nous toujours. Et que ta paix nous accompagne dans notre cheminement jusqu'à ce que tu viennes. En ton nom, Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Alors, parties qui suivent, c'est pour la vie quotidienne de notre communauté. C'est pour les annonces. La jeunesse m'interpère de mettre les lunettes. Donc le 5 du 3, prière à l'arrêt du moniteur à 19h30. Le 12 du 3, nous aurons notre prière en ligne. Vous ratez quelque chose, vous qui ne se rejoignez pas à nous. Ce jeudi, on a eu un bon moment qu'on ne voulait même pas arrêter. Eric nous a dit à un certain moment, vous savez, il est tard, il faut qu'on arrête. Tellement c'était bien. Donc tout le monde est convié à ce moment magnifique de partage. Étude biblique, le 19 du 3, toujours ici, on se forme, on s'instruit. Vous voyez ce que l'activité dehors propose. Je pense qu'il est grand temps de plonger nos regards dans la parole de Dieu, d'apprendre davantage ce que nous dit la parole de Dieu. Rencontre dans les maisons le 26 du 3. Et là aussi, nous avons le temps magnifique entre nous où nous partageons vraiment en profondeur nos sujets personnels, la communion entre nous. Donc si vous aussi, vous pouviez mettre de côté ce jour et chercher un groupe, demander à ceux qui y participent. Nous sommes tous édifiés par les échanges des uns et des autres. Les réunions des ados, leur rencontre le 8, le 22 et le 29. Le 14 du 3, ça c'est la soirée pour les ados. Pour plus d'informations, je sais qu'il y a un groupe des parents pour les ados avec Inès et Junior. Et ils font un travail magnifique et nous informent pour le suivi de nos enfants. Que Dieu les bénisse. Le 21 du 3, les ex-sœurs consacrées, donc les sœurs affermies, leur réunion prévue pour le 21 du 3 à Charleroi. C'est le même lieu où se tient notre convention annuelle. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas d'approcher Ratifa et les autres pour vos inscriptions. Groupe des jeunes, rencontrer des jeunes le 6 et le 20 du mois à 18h30. C'est ici à l'arrêt du moniteur. Et là aussi, pour plus d'informations, vous pouvez approcher Pierre ou Léon. Ils vous donneront les infos. Culte tous les dimanches à 10h15. Et là aussi, nous tâchons à être à l'heure, comme notre Dieu est toujours à l'heure. On vise 10h pour être à l'heure à 10h15. Oui, pour votre aide financière, le numéro de compte de l'Église s'affiche et nous pouvons déjà dire merci pour vous qui soutient l'œuvre de Christ par vos dons et vos offrandes, vos dîmes et offrandes. Et au fond de la salle, il y a les troncs aussi pour ceux qui utilisent la liquidité. Alors, les couples se rappellent que fin de l'année passée, si mes souvenirs sont bons, on s'est réunis pour parler de cette rencontre pour les couples. Et on avait, il y a un pasteur à Huy, notre frère Daniel Liberec, qui donne une conférence sur les couples. Et il a accepté de venir aussi, ici à l'arrêt du moniteur, nous donner, nous former pour comment pérenniser nos couples. Vous le savez, ce n'est pas un secret. Le diable commence dans les couples lorsqu'il veut détruire les familles et l'Église. À tout et chacun qui est concerné, qui est dans un couple, ou même ceux qui ne sont pas dans les couples, qui peuvent aider ceux qui sont en couple, gardez cette date. On vous la communique à l'avance parce qu'on sait que ça nécessite une bonne organisation pour les parents qui ont les enfants. Donc, ce sera le 11 avril, ici, à 18h. Et il ne faut pas s'inscrire, mais tout simplement, tenez à noter cette date déjà fixée. Merci. Je cède la parole à mon frère.
On peut se lever, chanter en dernière chanson ce dimanche. Merci, Olivier. Non par moi, mais par Christ en moi. Thank you. Que Dieu vous garde dans ses bras et que vous bénisse cette semaine.